Assise 1986-2019, l'histoire en perspective d'avenir, une conférence qui s'est déroulée en l'église Saint-Laurent de Cambo-les-Bains le 7 août 2019 sous le patronage du cardinal Roger Etchegaray, conférence organisée par l'abbé François Esponde de Pax Christi Bayonne.
Bonjour, je voudrais simplement rappeler que les trois intervenants sont bien là. Jean-Pierre Beuzin, que vous voyez en bout de table, il fut directeur pendant 17 ans de la Société biblique de Genève et qui va nous parler du centenaire de cette institution qui, je crois, en 2017, a célébré cet anniversaire. Il y a à côté Monsieur Lamassoure, qui était à Assise en octobre 1986 parmi les invités du cardinal Etchegaray, il y a donc 33 ans. Tout jeune député européen, il va évoquer des souvenirs, entre autres, de cette expérience unique, dit-il, d'Assise, il y a 33 ans. L'histoire en commun de la communauté européenne sera aussi un sujet auquel il travaille. Il y a à côté, évidemment, le père Georges Colomb, ancien président, directeur, ou en tout cas, père général des missions étrangères de Paris. Un spécialiste de l'Asie, sinologue, ayant vécu en Chine, ayant une connaissance de l'intérieur des églises asiatiques, où il peut compter dans ses réseaux et relations des centaines d'églises, d'évêques des différents pays asiatiques. Le père Colomb a une grande expérience de deux mondes, le nôtre et celui de l'Asie. C'est ce qui lui a valu d'être nommé évêque de La Rochelle. Et au demeurant, en charge de la communauté de Saint-Pierre-des-Miquelon, où il évangélise les Basques, entre autres. Ce qui est également une responsabilité immense lorsqu'on s'adresse à un témoin de sa qualité. Alors l'histoire en perspective d'avenir, en présence de représentants de différentes communautés religieuses, juives, chrétiennes, sociétés d'histoire, familles spirituelles, confessionnelles ou non confessionnelles, représentants de sociétés historiques, universitaires, des deux côtés des Pyrénées, invités et intéressés par le sujet. Monsieur le représentant de la commune.
Monseigneur, monsieur le député, mesdames et messieurs, j'ai le privilège, au nom de la commune de Cambo-les-Bains, au nom de son maire, Christian Devez, empêché et qui me prie de vous présenter ses sincères regrets. Mais je me suis laissé dire qu'il nous rejoindra un peu plus tard. Je suis donc très heureux de vous accueillir, d'accueillir et d'ouvrir cette nouvelle conférence sur le thème de l'histoire en perspective d'avenir. Je tiens à saluer nos trois orateurs de la soirée, en la personne donc de Monseigneur Colomb, évêque de La Rochelle, de Monsieur Jean-Pierre Beuzin, ancien directeur de la Société biblique de Genève, et de Monsieur Alain Lamassoure, fidèle de nos conférences. Et très récemment, ancien député européen. Merci à vous d'être là. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit notre maître des cérémonies, le père Esponde, mais trois sujets qui, sous l'égide de notre bien-aimé cardinal Roger Etchegaray, initiateur de ces rencontres, résonneront entre les murs de notre belle église. Je ne peux terminer sans rendre hommage à Bernadette Jougleux, notre Madame le Maire, qui a succédé à Vincent Bru, notre devenu député. Notre Madame le Maire, qui nous a quittés il y a déjà un peu plus de 4 mois, dont l'humanisme et le rayonnement intérieur nous manquent, mais qui nous regarde et nous appuie avec sa bienveillance coutumière. Monseigneur, et alors je dois dire en plus Monseigneur au pluriel, puisque nous avons la chance ce soir d'accueillir, en plus de notre orateur Monseigneur Collomb, Monseigneur Haillé, qui est notre évêque du diocèse, et Monseigneur Moller, qui est notre ancien évêque et évêque du diocèse. Mesdames et messieurs et monsieur le député, bienvenue dans notre église Saint-Laurent de Cambon-les-Bains. Et merci à monsieur le curé d'avoir bien voulu nous recevoir. Et je sais qu'il voudra dire quelques mots par la suite.
Merci. Voilà, monseigneur ou monsieur le curé, le moment.
J'ai hâte d'entendre les orateurs, que je remercie d'avoir accepté cette belle invitation, en remerciant d'ailleurs le père Patchy Esponde pour son audace coutumière et sa fidélité à organiser ses conférences annuelles en août. Sous l'égide du cardinal Chegaray, avec qui nous sommes en communion bien sûr, mais qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être présent au milieu de nous. Je ne multiplierai pas les paroles, je me contenterai de conclure tout ce qui a été dit jusqu'à présent en disant un mot qui nous est coutumier, c'est pas du basque pour autant, amen. Sachant d'ailleurs que je fais un petit rectificatif sur ce que vous avez dit concernant la mission de Mgr Collomb d'évangéliser les Basques, mais les Basques sont déjà évangélisés depuis longtemps. Et je suis sûr qu'il est évangélisé par nos Basques de Saint-Pierre et Miquelon. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et nous avons hâte de vous entendre sur ce thème histoire en perspective plurielle d'avenir, perspective biblique, perspective européenne, perspective asiatique. En tout cas, ça nous rappelle en effet qu'il n'y a pas d'avenir sans passé, il n'y a pas de construction de l'avenir sans une claire conscience de nos racines. Alors, nous sommes prêts à vous écouter, je pense.
Monsieur Jean-Pierre Bezin, il y a un an, vous aviez dit oui lorsqu'on vous a invité à rencontrer des catholiques du côté de Cambon-les-Bains. Vous qui êtes issu de la tradition protestante, et vous nous avez pourvu par trois fois de centaines de Bibles qui sont publiées par la Société biblique de Genève, en français, pour nos besoins locaux. La question de la Bible est pour nous vitale. Quelle technique, quel langage, quels moyens aujourd'hui, quels réseaux permettent à une institution comme la vôtre, centenaire, de diffuser le livre saint dans tant de langues parlées du monde ? Vous et les autres sociétés bibliques du monde que vous représentez par votre présence. Le numérique a-t-il apporté un bénéfice technique à cette connaissance de la Bible? Quels sont ses projets pour le temps qui vient dans une grande maison centenaire genevoise? L'écriture seule est-elle votre conviction première et biblique? Ou au fait des réseaux et des moyens de communication modernes, il faut innover et garder la tradition du livre. Monsieur, vous avez la parole.
Alors bonjour, je me présente très brièvement. En fait, j'ai une formation de physicien au départ. J'ai travaillé un peu moins de 30 ans dans l'industrie médicale, dans la conception d'appareils de radiologie. J'étais au début des scanners X, et puis dans la direction d'entreprise. Et puis j'ai bifurqué, et ensuite je me suis consacré pendant 16 ans, donc comme ça a été rappelé, à la direction d'une mission chrétienne, la Société biblique de Genève, dont le travail est l'édition de la Bible, et j'en ai pris ma retraite l'été passé. Donc la Société biblique a la mission de traduire et d'éditer la Bible en français, en italien, en allemand et dans les langues minoritaires, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis il y a un autre, vous voyez en bas de la diapositive, un autre logo qui s'appelle la Maison de la Bible, qui est c'est la même mission chrétienne. C'est le logo qui est utilisé pour l'édition de livres là, et aussi pour le réseau de librairies. Donc cette mission anime un réseau d'une trentaine de librairies, maisons de la Bible ou indépendantes, entre la France et la Suisse. Alors juste une petite photo pour montrer l'équipe de la Maison de la Bible. En fait, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais en fait, on n'est pas si nombreux. Il y a beaucoup de bénévoles aussi et beaucoup de responsables de ce réseau de librairies qui se joignent au séminaire annuel qui avait lieu cette année à Lézin au mois de mai. Donc, vous voyez, à Lézin au mois de mai, il y a encore beaucoup de neige. Alors, l'origine de la Société biblique de Genève est liée à celle de l'ensemble des sociétés bibliques en général, hein. Donc, en quelques mots, ça démarre au début du XIXe siècle par une anecdote originale. Donc, au début du XIXe siècle, la Bible est traduite dans la plupart des langues européennes. Il y a à peu près 80 langues, la Bible est disponible dans à peu près 80 langues européennes. Mais son usage est toujours réservé à une minorité de personnes instruites. Les classes plus pauvres, ouvriers ou paysans, n'ont pas accès à la lecture de la Bible. Et donc les Bibles imprimées sont rares et sont coûteuses. Donc il y a une anecdote qui a commencé donc au Pays de Galles, hein, et donc au début du XIXe siècle. Hein, il y a une jeune fille, hein, 15 ans, Mary Jones, qui voulait avoir sa Bible. Elle avait appris à lire à l'école du dimanche de son village. Et donc elle a économisé pendant 6 ans pour avoir de quoi s'acheter sa Bible en gallois. Et lorsqu'elle a eu l'argent nécessaire, elle a parcouru une trentaine de kilomètres à pied pour aller jusqu'à la première ville, hein, Bala, au Pays de Galles, où elle a rencontré le pasteur de cette ville, hein, Thomas Charles, pour lui acheter sa Bible. Et donc le pasteur a été extrêmement ému par cet engagement, cette persévérance de cette jeune fille, et il a réalisé effectivement que les Bibles étaient trop rare, qu'il y avait une pénurie de Bibles et que beaucoup de familles ne pouvaient obtenir une Bible pour eux-mêmes. Et donc il a mis en branle un réseau de connaissances à Londres, auquel a participé entre autres William Wilberforce, que vous connaissez peut-être, qui a été illustre pour son engagement contre l'esclavage. Et donc ce réseau-là a mis en place en 1804 donc la première société biblique, la British and Foreign Bible Society, qui a été le démarrage des sociétés bibliques. Elle a été à l'initiative d'un certain nombre de sociétés bibliques, de toutes les sociétés bibliques en fait dans le monde, et en 2 siècles à peu près, il y a aujourd'hui à peu près 150 sociétés bibliques qui couvrent à peu près 200 pays. Et donc à l'image de cette première société biblique, il y a eu la création d'une première société biblique de Genève, parce que vous allez voir, il y a eu 2 sociétés bibliques de Genève. Donc une première société biblique de Genève qui a commencé en 1814 et qui s'est éteinte en 1915 faute de ressources et d'énergie. Et l'ensemble des sociétés bibliques se sont donné un mandat à peu près commun, qui est toujours vrai aujourd'hui, à peu près vrai aujourd'hui, je vais dire, éditer les Saintes Écritures sans notes ni commentaires, c'est là où ça a un peu évolué, rester étrangère à toute controverse théologique, et se focaliser à remplir son mandat de distribuer la Bible. Donc après une centaine d'années d'existence, cette première société biblique s'est éteinte. Elle avait distribué en 100 ans 70 000 Bibles. C'est ce qu'on peut trouver dans les annales de cette première société biblique. Et pour l'époque, c'était beaucoup. Alors on arrive en 1917, et là c'est le début de la mission à laquelle j'ai appartenu pendant 16 ans, puisqu'elle a fêté son centenaire il y a 2 ans, où là c'est un Écossais du nom de Hugh Alexander qui s'installe à Genève et qui démarre une mission chrétienne avec ce but de faire connaître la Bible. Et donc le nom de cette mission, c'est la Maison de la Bible. Ce nom va se cristalliser avec la création de la première librairie, la Maison de la Bible, à Paris. Elle était au rue du Val-de-Grâce, hein, ça ne s'invente pas. Cette librairie existe toujours d'ailleurs, mais elle a déménagé, elle est proche de la gare de Lyon aujourd'hui. Mais il y a toujours une Maison de la Bible du côté de la gare de Lyon. Et donc jusqu'en 1939, la Grande-Bretagne, à travers cette British and Foreign Bible Society, centralisait l'impression des Bibles dans diverses langues et les distribuait depuis la Grande-Bretagne. Malheureusement, en 1940, les armées nazies ont envahi la Hollande, la Belgique et la France, et plus aucune Bible ne pouvait arriver sur le continent. Et donc la même année, la Maison de la Bible, en accord avec la Société biblique britannique, va décider d'imprimer et d'éditer elle-même les Bibles en français, pour commencer, pour pouvoir continuer d'approvisionner le continent en Bibles malgré la guerre. Et ainsi, il y a des centaines de colis avec des Bibles ont été expédiés depuis Genève durant toute la guerre. Et donc en 1940, c'est le redémarrage de la Société biblique de Genève, la nouvelle Société biblique de Genève, celle à laquelle donc j'ai appartenu. Aujourd'hui, elle a donc cette mission d'éditer en français, mais d'éditer aussi en allemand, en italien, et donc dans des langues minoritaires. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste partager brièvement les motivations, les buts de la Société biblique. Et j'ai trouvé utile d'appuyer ces deux buts principaux sur des paroles de Jésus-Christ. Hein. La première que je prends dans l'Évangile selon Jean, hein, au chapitre 14, au verset 27, c'est quelque temps avant que Jésus ne soit arrêté, il dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et une deuxième parole de Jésus-Christ, hein, un peu plus tard, donc au chapitre 17, c'est juste avant qu'il se rende au jardin de Gethsémani avec ses disciples, juste avant d'être arrêté et conduit à la croix. C'est dans une prière qu'il adresse à Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà les deux éléments clés sur lesquels se fondent les buts de la Société biblique, hein, parce que lire la Bible, c'est rencontrer une personne, rencontrer le Messie, rencontrer Jésus-Christ, qui nous donne sa paix et qui nous enseigne à regarder l'avenir avec sérénité. Alors voilà les deux objectifs que l'on peut décliner. Hein. Le premier, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, ça veut dire connaître la Bible, ça veut dire l'étudier. Et donc ça veut dire pour la Société biblique, améliorer constamment la traduction qu'elle propose, la mettre à jour régulièrement, la mettre à jour parce qu'il y a des découvertes archéologiques régulièrement, il y a des découvertes historiques, des découvertes linguistiques qui s'appuient justement sur ces découvertes archéologiques. Et puis, il y a aussi une évolution du français qui est constant. Le français, quand on lit Rabelais, par exemple, il est évident qu'on ne lit pas aujourd'hui Rabelais comme Rabelais écrivait, on ne lit pas Calvin comme Jean Calvin écrivait, ou Ignace de Loyola, même. On est obligé de traduire dans le français d'aujourd'hui pour que ce soit compréhensible. Et c'est la même chose pour la Bible, à peu près toutes les générations, il faut remettre à jour le français utilisé, parce que certaines expressions évoluent et ne seraient plus correctement compréhensibles par rapport au sens qu'il y a dans les originaux pour des Français d'aujourd'hui. Donc la première mission, c'est améliorer, toujours mettre à jour le texte biblique en fonction de l'évolution de la langue cible, français en l'occurrence, en fonction aussi des découvertes archéologiques. Et puis la deuxième grande mission de la Société biblique, c'est de rendre la Bible accessible à chacun, justement pour que chacun puisse connaître cette paix de Jésus-Christ, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde. Alors je vous propose de regarder brièvement les enjeux de la traduction de la Bible. Donc la Bible des chrétiens, c'est deux parties, hein, c'est l'Ancien Testament qui correspond à la Bible hébraïque, qui est principalement écrite dans les originaux en hébreu, il y a quelques parties en araméen, mais la grande majorité, la très grande majorité, c'est de l'hébreu, et le Nouveau Testament, qui est écrit en grec. Alors, voilà, j'ai trouvé une illustration de la Bible, voilà, que je trouve assez intéressante à partager. La Bible, c'est davantage une bibliothèque de livres qu'un livre. Donc, c'est un ensemble de livres qui ont été écrits sur plus de 1000 ans par une quarantaine d'écrivains. D'ailleurs, Bible, ça vient de Biblia en latin, qui veut dire les livres, qui ne veut pas dire le livre, mais qui veut dire les livres. Alors à gauche, vous voyez, écrit AT, c'est Ancien Testament. Donc tout ça, ça correspond à l'Ancien Testament. Et les trois premiers rayons, trois premières étagères, si on peut dire, correspondent au canon hébraïque. Donc dans la Bible juive, vous avez les mêmes livres. Ils sont organisés un peu différemment, mais c'est le même contenu. Ça correspond donc au canon hébraïque et au canon protestant. Et l'étagère du bas correspondent aux livres dits deutéro-canoniques qui correspondent au canon catholique. Et sur la partie de droite, donc le Nouveau Testament, Donc vous avez tous les livres du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament est commun à tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Et vous voyez, au début du Nouveau Testament, donc commence par les quatre évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et se termine par tout en bas, à droite, en bleu, le livre de l'Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ. Côté Ancien Testament, donc l'Ancien Testament, quand il s'agit de la Bible hébraïque, on appelle ça le Tanakh, et il commence par la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout en haut à gauche. Alors, la transmission des manuscrits, c'est quelque chose de passionnant, parce que ça a engagé un grand nombre de croyants. Donc la rédaction s'est faite en hébreu, donc sur une période d'environ 1000 ans. Cet Ancien Testament a été transmis par copie de copie jusqu'à l'invention de l'imprimerie en 1450 de notre ère. Donc vous voyez, pendant des centaines d'années, la pérennité de ce texte est due à la fidélité de nombreux copistes qui ont copié les manuscrits de l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'on invente l'imprimerie qui a permis de pérenniser un peu définitivement ce texte. Les copistes qui étaient en charge de ces copies avaient des méthodes pour vérifier que la copie qu'ils venaient de faire était conforme à la copie précédente. Par exemple, ils comptaient le nombre de lettres, il fallait que le nombre de lettres soit identique, c'était déjà un bon indice. Il faut savoir aussi qu'au départ, l'hébreu, tel qu'il est recopié, n'avait ni ponctuation ni voyelle. Tout ce travail d'introduction des voyelles, la vocalisation, d'introduction de la ponctuation aussi dans le texte dans l'Ancien Testament a été fait assez tardivement par des copistes qu'on appelle les massorètes, hein, vous le voyez ici, voilà, entre le 8e et le 10e siècle de notre ère, donc qui ont figé le texte avec ces voyelles pour qu'on puisse le lire correctement, en particulier qu'il soit transmis de façon orale correctement avec les bonnes voyelles et les bonnes intonations. Et donc de ce travail de copiste qui s'est reproduit de siècle en siècle, il nous reste le plus vieux manuscrit de l'Ancien Testament, c'est le Codex de Leningrad, hein, qui est indiqué ici, qui date de 1000 ans de notre ère. C'est le plus vieux texte complet de l'Ancien Testament en hébreu qui soit disponible. Alors il y a deux autres sources pour lorsqu'on veut traduire la Bible en français, deux autres sources de l'Ancien Testament. C'est la traduction dite la Septante, que vous voyez indiquée là, qui est une traduction qui a été faite par des savants juifs autour de l'an -300, et à la demande du roi d'Égypte Ptolémée II. Donc il a souhaité que la Bible hébraïque soit connue des juifs de la diaspora. Donc les juifs de la diaspora parlaient davantage grec qu'hébreu. Et donc elle a été traduite à cette époque-là, de l'hébreu, donc de -300, au grec de l'époque. Donc c'est une autre. Et après, elle a été transmise par copie de copie, hein, même procédé jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Donc deuxième source de l'Ancien Testament, c'est une Bible en grec, mais qui date d'avant notre ère, de 300 ans avant notre ère. Et enfin, troisième source, les fameux manuscrits de la Mer Morte, dont vous avez entendu parler, hein, qui ont été découverts juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947. Et ces manuscrits remontent aussi à peu près entre -300 et +100 de notre ère. Donc vous voyez que ces manuscrits de la Mer Morte, qui comprennent de nombreux passages de l'Ancien Testament, il n'y a pas l'Ancien Testament complet, mais il y a de nombreux passages de l'Ancien Testament, en particulier il y a tout le livre d'Isaïe qui est complet, ont permis de retrouver la façon dont l'Ancien Testament a été copié 1000 ans avant le plus vieux manuscrit qu'on avait jusqu'en 1947, qui était ce codex de Leningrad qui date de l'an 1000. Donc on a pu faire un bond de 1000 ans en arrière, et toutes ces sources, d'une part, permettent de mieux traduire plus finement certains passages un peu délicats, puisqu'on voit par exemple comment les savants juifs de -300 avaient traduit en grec, donc c'est une façon d'affiner certains passages, mais ça nous permet aussi de voir que toute la transmission sur tous ces siècles-là a été extrêmement fidèle, parce qu'il y a très peu de variations entre toutes ces sources. Alors là, je vous montre deux exemples de manuscrits disponibles. À gauche, c'est un fragment de l'Ancien Testament qui date du IIe siècle avant notre ère. Il s'appelle le papyrus de Nash. Donc c'est le plus ancien, je crois que c'est le plus ancien fragment de l'Ancien Testament qu'on ait retrouvé. Et puis à droite, c'est une page de ce codex de Léningrad, de ce plus vieux texte complet de l'Ancien Testament en hébreu. Et si vous regardez, alors je ne sais pas si ça se voit très bien sur la diapositive, mais à droite, vous voyez qu'il y a des petits points et des petits tirets autour des lettres hébraïques. Ces petits points et ces petits tirets indiquent justement la vocalisation du texte hébreu qui était uniquement fait de consonnes. Et donc cette vocalisation permet aussi de figer un peu les voyelles et qui permet une meilleure transmission orale du texte hébraïque. Alors, de la même manière, il y a eu transmission du Nouveau Testament, donc il a été écrit sur une période beaucoup plus courte, sur une cinquantaine d'années, entre l'an 50 et l'an 100, grossièrement. Et de la même manière, le Nouveau Testament, donc lui a été écrit en grec, et il a été copié de manuscrit en manuscrit, de copie en copie, jusqu'à l'invention de l'imprimerie en 1450. Donc je vous passe un peu les détails, mais il y a eu tout un grand groupe de manuscrits qu'on appelle les manuscrits majoritaires, et aujourd'hui il y a plus de 5000 copies complètes de Nouveau Testament qui sont disponibles dans cette grosse catégorie de manuscrits majoritaires qui ont servi à la traduction de la Bible depuis le début de notre ère jusqu'au 19e siècle. Et il se trouve qu'au milieu du 19e siècle, il y a deux manuscrits qui ont refait surface, et je les ai indiqués en dessous, le Sinaiticus et le Vaticanus, ici. Et il se trouve que ce sont deux manuscrits très anciens qui remontent au 4e siècle de notre ère et qui ont une rédaction plus sobre que cette masse de manuscrits. Et donc aujourd'hui, la plupart des Bibles s'appuient sur ces deux manuscrits complets dans lesquels vous trouvez à la fois l'Ancien Testament en grec et le Nouveau Testament en grec. Les Bibles les mieux documentées vous montreront les variantes de l'ensemble des manuscrits en notes, vous permettant de voir un peu comment le texte a évolué au cours des siècles et à travers les différents manuscrits. Et encore une fois, ce qui est important, c'est aussi de voir qu'il y a, quand on consulte l'ensemble de ces manuscrits, il n'y a aucune différence théologique fondamentale entre tous les types de manuscrits, c'est-à-dire que le message de l'Évangile s'est transmis fidèlement depuis plus de 2000 ans. Alors là, c'est un exemple du codex Sinaiticus. On dit codex parce que c'est la forme d'un livre et non pas la forme d'un rouleau. Qui est le plus ancien, la plus ancienne copie de manuscrit grec du Nouveau Testament, complète. Alors comme vous le voyez, c'est uniquement, ou comme vous le devinez plutôt, c'est uniquement des lettres majuscules. Il n'y a pas de séparation en chapitres et en versets. C'est tout écrit d'un seul bloc. Donc la division du Nouveau Testament en chapitres et en versets, c'est quelque chose qui est apparu assez tardivement, au XIIIe et XVe siècle. Donc ça a été introduit en même temps que l'imprimerie. Et ça permet bien sûr de se retrouver un peu plus facilement dans l'étude de la Bible. Donc voilà, avec tous ces manuscrits, on les met à disposition des traducteurs pour qu'ils puissent traduire la Bible. Et il y a un document qui est édité régulièrement, qui est mis à jour quand il y a des découvertes particulières. Et il y a une société biblique, la société biblique allemande, qui s'est un peu spécialisée dans l'édition donc des textes originaux en hébreu et en grec, pour les mettre à disposition des traducteurs dans une version actuelle. Vous voyez qu'il y a la décomposition en chapitres et en versets, et vous trouvez aussi en bas du texte un certain nombre de notes qui indiquent toutes les variantes des manuscrits pour que le traducteur ait à ses dispositions les variantes des différents manuscrits. Et ces manuscrits sont aussi informatisés et disponibles dans des logiciels assez sophistiqués qui permettent d'avoir en parallèle les différentes variantes de manuscrits, là aussi pour que les traducteurs, que ce soit en hébreu ou en grec, puissent comparer les différentes variantes et les évolutions du texte pour en affiner la traduction. Ce sont des outils aussi qui permettent de communiquer. Souvent, les traducteurs travaillent ensemble et sont éloignés de grandes distances. Donc, c'est utile de pouvoir aussi communiquer à travers Internet pour partager des questions sur la traduction. Alors, une chose qui est importante à comprendre quand vous ouvrez une Bible pour la lire, vous allez trouver beaucoup de des numéros de chapitres, des numéros de versets, comme je l'ai indiqué. Vous trouvez une ponctuation, des guillemets, vous trouvez des titres de paragraphes, souvent des sous-titres de paragraphes. Vous avez des notes d'études en bas de page. Vous avez aussi souvent des références parallèles qui sont indiquées. Il faut savoir que tous ces éléments-là sont très utiles pour lire et comprendre la Bible. Il faut comprendre que tout ça, ce sont des ajouts de l'éditeur pour éclairer le texte, mais ne font pas partie du texte biblique original. Alors, une citation intéressante, qui est très ancienne, puisque c'est une citation de saint Augustin, qui était à cheval sur le 4e et le 5e siècle. Donc, saint Augustin disait, cette grande variété de traductions, donc déjà à son époque, il y avait ce nombre de traductions, essentiellement en latin, cette grande variété de traductions sert plus encore à l'intelligence des Écritures qu'elle n'y met obstacle. Quand on s'attache à les lire avec une véritable application, c'est en consultant plusieurs traducteurs que souvent on est arrivé à saisir le sens de quelques passages très obscurs. Donc quand on ne connaît ni le grec ni l'hébreu, et quand on ne le connaît pas finement en particulier, la bonne manière d'étudier en détail la Bible, c'est de s'appuyer, comme le dit saint Augustin, sur plusieurs traductions à la fois, car chacune a pris des options pour traduire, je vais en dire un mot, et donc le fait d'avoir plusieurs traductions à sa disposition, ça permet d'avoir des éclairages différents sur des passages qui peuvent être un peu difficiles à comprendre. Et donc pour cela, je vous propose de regarder les quelques grands principes de la traduction de la Bible. Alors j'ai juste m'arrêter sur trois grands principes. Le premier, c'est le niveau de langage qui est adopté pour traduire la Bible. Savoir que lorsqu'on se lance dans une traduction biblique, on va réfléchir à quel public on s'adresse. Et vous allez trouver des Bibles qui sont dans un français assez littéraire, un vocabulaire assez soutenu. C'est le cas de cette Bible, qui est une traduction de Jérusalem, ou bien la traduction Bayard, que vous connaissez peut-être. Et puis il y a des Bibles qui vont vouloir s'adresser à un public plus large, et donc qui vont utiliser un français plus courant, comme la Bible des peuples, comme la Bible dite en français courant, justement, ou encore la Second 21, celle qui est sur les tables à la sortie, la Bible blanche. Et puis vous avez même un niveau de français simplifié, c'est la Bible traduction dite parole de vie, qui, là, de la Société biblique française, qui là, volontairement, s'est limité à 3500 mots usuels de la langue française, en visant un peu toutes les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, pour que la Bible soit compréhensible par, il y a de nombreuses personnes sur cette terre qui parlent le français en deuxième langue, et donc pour que la Bible soit plus accessible à ces personnes-là. Un autre grand principe, c'est la traduction des poids et de mesures qui sont qu'on trouve dans la Bible, tout au long de la Bible. Un certain nombre de traductions vont conserver en français les mesures historiques, on va parler de coudée, de talent, de cycle, de batte, de homer, avec le risque d'avoir une difficulté à se représenter ces dimensions-là, bien sûr. Et puis, les Bibles, principalement celles qui vont utiliser un français plus courant, vont transposer les mesures qu'on trouve dans la Bible dans des mesures qu'on connaît mieux aujourd'hui, comme les mètres, les litres et les kilogrammes, ce qui nous permet de mieux se représenter les dimensions qui sont utilisées dans la Bible. Je me souviens personnellement, j'ai grandi avec une Bible qui utilisait les mesures historiques et je me représentais le temple de Salomon, donc comme un immense bâtiment. Il était tout exprimé en coudées et tout ça. Et puis quand j'ai changé de Bible, j'ai pris une Bible qui avait les mesures qui étaient en mètres, je me suis aperçu que le temple de Salomon finalement n'était pas si grand. C'était plutôt un joyau. Et puis le troisième grand principe de traduction, donc il est peut-être un petit peu plus délicat à approcher, c'est le choix du type de traduction qui va être pris par les traducteurs. Il y a deux grandes catégories. On va parler de traduction à correspondance littérale ou formelle, donc une traduction littérale, ou bien on va parler de traduction à équivalence dynamique, traduction dynamique. Et je crois que c'est quelque chose, je vais m'arrêter juste deux minutes là-dessus, j'espère que je ne vais pas vous perdre, parce que c'est quelque chose d'utile à saisir lorsqu'on utilise plusieurs traductions. C'est important de savoir quels sont les grands principes utilisés par la traduction qu'on utilise. Quand vous voulez transmettre un message, c'est que vous avez une idée à transmettre, et pour transmettre cette idée, il y a l'idée, mais il y a aussi la formulation de l'idée. Les deux sont intimement liés. Et dans une correspondance littérale, dans une traduction littérale, le traducteur va chercher à transmettre l'idée, bien sûr, dans le français, puisqu'on parle de ça, mais aussi à respecter, autant que faire se peut, la formulation initiale de l'hébreu ou du grec. Alors que dans une traduction dynamique, le traducteur va chercher à comprendre l'idée du texte original, bien sûr, et il va s'affranchir de la formulation. Il va au contraire chercher à rendre le mieux possible dans le français et dans la culture française l'idée et l'impact qu'a eu le message original. Et donc ça fait deux types de traductions assez différents. Et donc c'est important de comprendre quel type de Bible on a entre les mains, sachant qu'il y a un continuum entre les deux, bien sûr, pour savoir sur quoi on peut s'arrêter dans une traduction. Par exemple, il ne faut pas s'attacher à la forme d'une traduction dynamique, puisque justement, le traducteur s'en est affranchi de la forme. Par contre, dans une traduction littérale, on peut se dire que l'original n'était pas trop loin de cette forme-là. Je vais prendre quelques exemples qui sera peut-être un peu plus clair. Je vais prendre un passage de l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, faites donc... Donc, je commence par une traduction dynamique. La traduction dite du semeur, et après la traduction du français courant, qui sont deux traductions dynamiques. La traduction du semeur dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. En français courant, cette autre traduction va dire, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Alors, si vous prenez des traductions littérales, je prends la Tob, par exemple, la Tob va dire, la traduction œcuménique va dire, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ou la seconde 21, qui est une traduction en français relativement courant, mais qui est littérale, celle qui est sur les tables dehors, dit, vous pourrez vérifier en sortant, rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc vous voyez que les traductions dynamiques, les deux premières, sont un peu plus faciles à suivre. Chercher le règne de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais elle va aussi limiter le sens. C'est-à-dire que, bien sûr, cette compréhension est correcte, rechercher ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais on pourrait aussi comprendre la justice de Dieu comme la justice que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, alors qu'il y a légitimement, par exemple, deux compréhensions qu'on peut mettre sur ce verset-là, la traduction dynamique qui veut être bien compréhensible va en privilégier une, alors que la traduction littérale va être peut-être un petit peu moins compréhensible, mais va laisser ouvert les interprétations. Alors, je vous donne un autre exemple qui est peut-être un peu plus facile à comprendre là. C'est un exemple tiré dans l'Ancien Testament, du premier livre des Rois, le chapitre 7, le verset 38. Donc il s'agit de la description justement du temple de Salomon. Donc, traduction littérale, la Bible de Jérusalem, donc celle-ci. Donc devant le temple, il y avait des cuves qui étaient remplies d'eau. Et il est dit dans ce livre, chaque cuve pouvait contenir 40 battes. Donc ça c'est la traduction de Jérusalem qui garde les mesures historiques, chaque cuve pouvait contenir 40 battes, chaque cuve mesurait 4 coudées. Voilà. Donc la seconde 21, celle qui est dehors, chaque bassin pouvait contenir 880 litres et faisait 2 mètres. On ne précise pas 2 mètres dans quelle direction. Alors que les traductions dynamiques vont chercher à comprendre un peu plus sur des bases sérieuses, bien sûr, des bases archéologiques, historiques, comment étaient faites ces cuves, et va traduire un peu plus loin, Dans la Bible des peuples, vous lirez, chaque bassin contenait 40 mesures, chaque bassin avait 4 coudées de diamètre. Donc voilà, cette traduction a compris que c'était le diamètre qui était mesuré. Par contre, la traduction parole de vie, qui est également une traduction dynamique, elle a compris que c'était plutôt la hauteur. Donc elle va dire chaque cuve avait 2 mètres de haut et contient à peu près 1600 litres d'eau. Donc vous voyez que les traductions dynamiques sont plus compréhensibles, mais elles prennent plus de risques aussi, parce qu'elles vont aller un peu plus loin dans l'explication du texte, donc elles prennent un peu plus de risques. Il y a aussi quelque chose d'intéressant quand on compare tous ces versets, c'est que vous voyez la seconde 21, par exemple, elle a été faite elle est terminée en 2007, et la Bible Parole de Vie est à peu près 20 années plus ancienne, et on voit qu'entre les deux traductions, il y a eu des progrès de fait pour la compréhension de ce qu'est le bat comme unité de volume de liquide. Parce que vous voyez, il y a 30-40 ans, on pensait que 40 bahts étaient équivalents à 1600 litres, et aujourd'hui, les traductions qui sont faites aujourd'hui ont compris que c'était plutôt autour de 800 à 1000 litres. Donc vous voyez une évolution du texte biblique qui est liée à des précisions apportées par des recherches archéologiques. Alors voilà juste un exemple de Bible qu'édite la Société biblique de Genève aujourd'hui. Donc en haut à gauche, vous avez une Bible avec des notes archéologiques, par exemple. Et dans ce diapo-là, c'est juste un exemple des Bibles disponibles. Vous avez des Bibles françaises, des Bibles italiennes, des Bibles allemandes. Vous avez des Bibles littérales ou des Bibles dynamiques. Et en ce moment en cours, par exemple, il y a 3 grands projets biblique dans cette société biblique. La première, c'est une révision du texte de la seconde 21, donc qui est un texte littéral. Il y a aussi en cours une traduction d'un texte italien, donc une traduction dynamique, et une autre traduction dynamique en allemand. Alors ça, la première mission donc de la société biblique, c'est toujours entretenir, maintenir le texte biblique. Le deuxième but, c'est de rendre la Bible accessible à chacun. Et donc, un exemple, c'est cette Bible blanche, donc encore une fois que vous trouvez dehors, et je vous invite à vous servir. Quand la traduction de la seconde 21 a été terminée, après plus de 15 ans de travaux, hein, c'est pas des choses qui se font en 24 heures, il y a eu le souhait, comme depuis toujours, hein, depuis le début de cette mission en 1917, la Société biblique de Genève a toujours voulu proposer des Bibles au moindre coût. Et avec la sortie de cette nouvelle traduction, on a souhaité vraiment la faire au coût le plus bas possible. Et en 2007-2008, elle est sortie au coût de 1,50€. Elle vaut un peu plus cher maintenant, elle vaut 1,90€. Et cette Bible a été un tel succès, qui était honnêtement inattendu, qu'on a décliné cette solution-là en allemand et en italien. C'est pour ça que vous avez 3 Bibles blanches là sur cette diapositive. Et ce qui a été intéressant à constater, c'est que, vous voyez, en une douzaine d'années, il y a plus de 5 millions de Bibles qui ont été distribuées, et c'est 5 millions de Bibles en plus de ce qui était distribué tous les ans. Parce que on distribuait dans la même période de temps habituellement 1 million de Bibles, on a continué de distribuer 1 million de Bibles sur une douzaine d'années, et j'ai eu des discussions avec des collègues d'autres sociétés bibliques ou d'autres éditeurs de Bible, et ils n'ont pas vu leur volume de Bible traditionnelle, entre guillemets, baisser. Et donc cette Bible à bas coût a permis d'être achetée par des gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter la Bible. Et quand vous regardez sur des sites où il y a des commentaires, comme Amazon ou la Fnac, ou des sites de librairies en ligne qui proposent des commentaires, vous voyez qu'il y a des gens qui ont acheté cette Bible-là pour la première fois, y compris des croyants qui ont saisi l'opportunité de découvrir le livre qui soutient leur foi, y compris le dernier commentaire, qui est un commentaire d'un athée qui voulait quand même lire la Bible une fois dans sa vie. Apparemment, il est toujours athée, hein, vu le commentaire. Mais on ne désespère pas. Alors, rendre la Bible accessible à chacun, c'est aussi utiliser les différents médias disponibles. Donc, cette Bible, la seconde 21, par exemple, est éditée en version numérique. Elle est par ailleurs gratuite, hein, si vous la cherchez sur Apple Store ou sur Google Play, je crois. Vous tapez Second 21 études et vous trouverez cette Bible, vous pourrez la télécharger avec les variantes des manuscrits, d'ailleurs, dans cette Bible numérique gratuite. Et puis, elle existe sous forme audio, donc ça veut dire qu'on l'enregistre par des gens qui lisent correctement. Et elle est disponible sous CD, bien sûr, sous une clé USB, comme vous voyez là. Et également, pour les personnes qui sont pas très geeks, il y a un petit appareil pour écouter la Bible. Son nombre de personnes âgées sont très friandes de ce petit appareil qui permet d'écouter la Bible en entier sur un petit appareil qui se recharge tout seul. Et puis pour les personnes qui trouvent que les caractères de la Bible sont un peu fins, on édite aussi la Bible en gros caractères. Alors rendre la Bible accessible à chacun, c'est important, mais c'est aussi important de la rendre accessible dans la langue maternelle. Et là, une citation de Nelson Mandela qui est très juste. Si vous parlez à une personne dans une langue qu'elle comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue maternelle, vous touchez son cœur. Alors, voilà. Le but aussi, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas la Bible dans leur langue maternelle et qui souhaitent la voir, puissent la voir. Donc ça, c'est aussi une mission des sociétés bibliques, de pouvoir aider à la traduction dans toutes les langues qui existent sur cette terre et qui souhaitent avoir la Bible. Alors pour illustrer ça, je vais vous proposer un petit reportage montre la dédicace d'une traduction du Nouveau Testament en langue kimiale. C'est un peuple des montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une île qui est au nord de l'Australie. D'ailleurs, j'ai revérifié aujourd'hui. C'est une île qui est à la taille de la France, en fait. Donc, c'est un petit peuple numériquement qui vit dans les montagnes et qui reçoit pour la première fois le Nouveau Testament dans sa langue maternelle. Et vous verrez que c'est une joie qu'on a un peu perdue maintenant en Occident. Donc, ces traductions en langue minoritaire doivent être effectuées soit par des missionnaires qui ont passé 20-30 ans de leur vie au milieu de ces peuples, soit, et c'est plus généralement le cas, par des autochtones. Donc la Société biblique de Genève va apporter une aide logistique à ces personnes-là, une aide économique aussi, parce que ça coûte cher, et puis va se charger de tout le travail d'édition, tout le travail d'impression et de livraison de ces Bibles, va aussi assurer la communication avec les biblistes qui souvent vont parler ou anglais ou français ou espagnol pour vérifier que la langue traduite dans la langue locale est correcte. Donc c'est un travail en deux temps. Généralement, ils partent d'une langue soit l'anglais, soit le français, soit l'allemand, soit l'espagnol, vont traduire par exemple en kimial pour garder ce même exemple, et après ils vont retraduire dans l'autre sens du kimial à l'anglais pour pouvoir interroger des biblistes et vérifier que la traduction est correcte. On veut toujours revenir à une comparaison à l'hébreu ou au grec. Donc c'est un processus qui est très long, surtout quand on pense que les moyens de communication avec les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont pas toujours aussi faciles qu'en Occident. Alors voilà, je vous propose un petit reportage. Donc c'est une petite vidéo qui les gens parlent en kimial, donc vous comprendrez rien comme moi, mais c'est sous-titré en français.
Dara na nyundi yubuda abna gigip memero. Dara memero kom. Po yornal na nyundi gerente omulatlam siyang wenena. Memero puku wenena ot kemelama. Do wene ani si ani yaklem labwa nimba be elu lama. Po memero kom ni omulatlam siyang wenena. Oui, nimba be ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nyundi yubunisin. Mati yut sampe wahyu. Gigit ang kalu wenena. Wala, yosim na.
Igin gum, gaman. Yang upnya juga nana, nana emi yang tiblam nu nabuka, naya kumpul neri masyarakat, emi yang mabon nisinap, nisin emi yang saya yang ulam upti, nabe yang ulam naya juga, neri ingin nak gigit lawa biu pertanyaan lama apa rasanya nana, dan ingin lam nu nene kena gigit pesarok pesingding kayo.
Ane ne meyong du nabut na ne tatsiwa nu ningi yang opsi nu du al kitab do wapti am busin ban nu di buta ep tol te meyong di yula rop ne nisina nu di buta ep nu na ngeng kanga di topap se an tim member yang nu bebe e meyong yube shulum ni mi babe na bo
siga ne soni mi ane soni mi na e imiyong di yubu gimya di bura ep memero wa anege Nundi seri dobe ti wenena nundi ma bo mo ma war def si ta tinna ma ko yungu go so ma ko go wenena nundi ibrahim ne nge sal ba hepto tinundi ma ba do si ta siktina sikte lim sik ma ba kanege on batta ba lam sik ba sigat nina na son ima sa wingu go sem bia sik ba be nina so
pet nak de lim na sumnen emi yong na ne yong aba kiplam na Anse. Di mande ya yu ne ngel lakde pne ya. Di mande ya ne ngena. Wene ya ko de bla. Di mande ya ne na de la la ko buka. Sampai ko koprak na orum le.
Alors. Alors cette traduction n'a pas été faite par la Société biblique de Genève, par une société sœur, mais je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un Nouveau Testament, souvent c'est le Nouveau Testament qui est traduit en premier, qui est apporté que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, il y a ce même genre de démonstration de joie pour accueillir la Bible dans leur langue maternelle. Rapidement, je termine avec quelques chiffres sur ces justement traductions en langue dites minoritaires, hein, parce que ce sont des peuples qui ont dont quantitativement sont un faible nombre. Hein. Dans le monde, il existe plus de 7000 langues. Hein. Et il y a plus d'1,5 milliard de personnes qui n'ont pas toute la Bible dans leur langue maternelle. Et plus grave, si je peux dire, il y a 114 millions de personnes, à peu près, hein, qui n'ont aucune portion de la Bible traduite dans leur langue maternelle, et ça représente à peu près 1600 langues sur cette terre. Et donc, vous voyez la répartition, la majorité est en Afrique et en Asie, il y en a pas mal aussi dans le Pacifique, encore quelques-unes en Europe, particulièrement dans les peuples nomades d'Europe de l'Est, hein, et puis un petit peu aussi en Amérique latine. Donc la traduction d'une Bible en langue minoritaire, ce sont des durées qui sont aussi équivalentes un peu à ce qu'on trouve quand on veut traduire une Bible en français depuis l'hébreu ou le grec, sans que ce soit une révision. Entre 5 et 20 ans pour le Nouveau Testament, entre 12 et 25 ans pour l'Ancien Testament, c'est ce qu'on mesure à peu près. Ça coûte à peu près 1 million d'euros en moyenne pour traduire la Bible. Et après, les Bibles sont éditées, mais de relativement faible quantité, parce que ce sont des peuples qui sont entre 200-300 000 habitants à 1 million d'habitants. Donc l'édition va pas être une très grosse édition. Donc on a un prix qui est relativement élevé pour chaque Bible. Donc il y a besoin effectivement de soutenir ces efforts de traduction. Voilà juste un échantillon de type de Bible que ça peut donner, un peu dans toutes les langues et tous les alphabets. Et puis voilà, je termine sur le programme un peu de la Société biblique de Genève dans ces langues minoritaires. Donc vous pouvez voir en haut à gauche, il y a deux projets en Amérique latine. Il y en a pas mal en Afrique, il y a quelques projets en Océanie, et il y a eu un projet en Europe de l'Est. Mais bon, la Société biblique de Genève est un petit maillon de cette chaîne qui traduit la Bible à travers le monde. Voilà, je vous laisse mon email, hein, si vous voulez dialoguer après. JPB, mes initiales, @caillouBlanc.net. Donc, Caillou Blanc, c'est Apocalypse 2:17. Hein. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que lui seul connaît. Voilà, on est dans cette espérance, on attend notre caillou blanc. Voilà, je vous remercie.
Assise 1986-2019, l'histoire en perspective d'avenir, une conférence qui s'est déroulée en l'église Saint-Laurent de Cambo-les-Bains le 7 août 2019 sous le patronage cardinal Roger Etchegaray, conférence organisée par l'abbé François Esponde de Pax Christi Bayonne.